Mesdames et mesdames, voici venu l'heure des papillons.
Est encombré.
Encombré de quoi?
De caisses.
De caisses?
Oui, de caisses, je fais l'exportation.
Exportation de quoi?
De caisses.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos caisses?
Des petites caisses. J'exporte des petites caisses dans la moyenne caisse.
Et où mangez-vous?
Sur une petite caisse.
Et où dormez-vous?
Dans une grande caisse. Bon, en tout cas, je vais seulement me débarrasser de ce living room et de mes caisses.
Mais votre exportation?
Je laisse tomber, j'en ai par-dessus la tête.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
De l'importation.
L'importation de quoi?
De planches.
Pourquoi faire?
Des caisses.
Bon, bah mon vieux, votre living room m'intéresse.
Avec ou sans caisse?
Avec les caisses, ce sont les caisses qui m'intéressent.
Ah, vous faites aussi dans la caisse?
Non, moi je suis dans le coin.
Dans le coin?
Dans le coin.
Dans quel coin?
N'importe quel coin.
N'importe quel coin?
Bah quoi, ça vous étonne?
Non mais quelle sorte de coin?
Mais tous les coins. Tenez, par exemple, en ce moment, je travaille avec la SNCF.
Oui.
Eh ben, je leur vends des coins couloirs et des coins fenêtres.
Et vous ne travaillez qu'avec la SNCF?
Non, je fais tous les coins.
Faites pas les recoins?
Non, jamais de copie.
Ah. Qu'est-ce que vous faites comme autre coin?
Comme autre coin, je fais le coin de rue, le coin cuisine, les quatre coins pour les enfants.
Mmh. Ah, ça c'est intéressant.
Non, en ce moment, c'est hors de prix.
Ah, ouais. Il y a longtemps que vous êtes dans le coin?
De père en fils.
Ça vous plaît?
Non, mes parents m'ont forcé.
Ah. Bon, bah, monsieur, j'ai une affaire à vous proposer.
Vous écoute.
Au lieu de vendre mes caisses, je vous vends mes coins.
Quel coin?
Les coins de mes caisses.
Bah oui, mais vous n'aurez plus de caisses parce que sans coin, pas de caisses.
Non, mais j'aurai des planches, au lieu de faire de l'importation, je ferai de l'exportation.
Oui, bah moi j'ai une meilleure affaire à vous proposer.
Je vous écoute.
Gardez vos planches pour faire des caisses.
Alors j'ai une deuxième proposition à vous faire.
Vous écoute.
Avec les planches qui me restent, je refais des caisses.
Vous achetez vos coins?
Il me reste des planches, je refais des caisses.
Qui dit caisse dit coin, je vous rachète vos coins.
Il me reste des planches, je refais des caisses.
Et ainsi de suite.
Et ainsi de suite.
Et quand on aura plus de caisses,
eh ben on changera de coin.
Et voilà.
Personne ne sait ni ne comprend, ni même n'a un début de réponse à la question « Pourquoi parle-t-on ? » On en était là. Et quand je disais que la langue s'apprend en la pratiquant, ça sous-entendait deux choses. D'une part, qu'elle est innée, qu'elle semble donc nous précéder, de la même manière qu'une araignée à peine éclos, sans un cri, est déjà capable d'engloutir tout ce qui passe à sa portée. Sœur ou frère compris, s'il n'y a rien d'autre pour survivre, et qu'il soit moins rapide, évidemment. La deuxième remarque concerne la suite, c'est-à-dire son apprentissage. Et ici, on voit vite que la parole, loin d'être théorique, s'apprend, ou plutôt, devrait s'apprendre comme on apprend les nœuds marins. On peut toujours contempler leurs illustrations dans une encyclopédie, et même lire ce livre merveilleux de cet admirable officier, l'amiral Devaux, sur les 847 façons de faire un nœud, des petits pour attacher un mousse par gros temps, ou de très complexes afin de départager les grosses têtes, futur prix Nobel, catégorie du nœud dans la marine. Mais cela donnera-t-il une maîtrise du nœud pour autant? On aura surtout, comme résultat, d'être certain de finir à la cale, si on nous confie tout à coup la mission d'amarrer le bateau, en résumé, d'y faire un nœud.
I say, Ari, Ari, G.
Ceci étant dit, on se demande après tout ça, pourquoi parler? En tout cas, pas par utilité, ni même par intérêt. Car c'est avec le reste que l'humain a trouvé sa langue. Dans sa partie la moins essentielle, la plus superflue, la nécessité de parler, d'en parler, de rien, de tout, comme le coq au lever du soleil, ou la poule qui a pondu un œuf. Et donc, nous avec. Salut, ça va? Quoi de neuf? 3 par 3? En y réfléchissant 2 secondes, même sans être astronaute, il ne nous faut vraiment pas grand-chose pour gazouiller. Une étoile tout au plus, ou le goût d'une omelette. Ou le goût d'une omelette. Parler sans pourquoi. Mais pas sans raison, qu'il a fait ajouter Platon. Oust, les poètes, il est midi, au coucou de la pendule. Ce sera coco vin pour le monde. Malgré tout, c'est plus fort que nous. La langue parle pour parler. Elle reste sans pourquoi, vide elle-même, exactement comme la poésie. Autrement dit par Baudelaire, la poésie, pour peu qu'on veuille descendre en soi-même, interroger son âme, rappeler ses souvenirs d'enthousiasme, n'a pas d'autre but qu'elle-même. Et il le prouve. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein de frissons, des choses qui s'enfuient. Faut-il ici pratiquer une autopsie grammaticale? La musique ne suffit pas? Thank you. Mais revenons à notre cher Logos, celui qui, d'un point de vue cartésien, serait le seul à avoir raison. Raison gardée ou pas, ça, c'est vite constaté. Or donc, disait l'inspecteur Clouseau, par le biais cognitif de ces mêmes génies cartésiens, mais avec des chiffres à la place des mots du cœur, le papillon est devenu le synonyme d'une pierre, un machin, un bidule, un truc, le chien, un automate, et la tomate, un prix. C'est-à-dire qu'ils ont chiffré la vie à leur image, exsangue de goût, inerte, rabougrie, et sans plus aucune élégance. À partir de là, pourquoi continuer à parler ? Se demandent les cartésiens. Écoutons ce qu'ils nomment progrès. Une puce avec un algorithme serait bien plus reposant et surtout bien plus compétitif que le laborieux petit Robert, pire, se taper le littré qui, dit le dicton, ne se trompe jamais. Et surtout, sous couvert de passer pour un crétin obscurantiste, il faudrait donc voir là-dedans l'idée d'un progrès. Je dis bien l'idée, parce qu'avant que cela fonctionne, je sens qu'on va bien rigoler. Quand on examine de près certaines de leurs autres idées, qui, elles, sont plus anciennes, et ont eu le temps de parfaitement aboutir à la destruction, et dont nous ne pouvons que constater l'immense bénéfice, autant sur les insectes, les arbres, les animaux, les gens, au point que ces mêmes « je pense donc je suis » errant au bord de la nuit, comme les décrivait Victor Hugo, envoûtés par le néant et du haut de leur égo démesuré, nous ont donné toutes ces choses merveilleuses qui nous ont amenés là où nous sommes, le ravage planétaire. Fort obscur pour finir, la raison du logos, et pas forcément non plus la meilleure.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he they just traveled about. But his dog up and died, dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky-tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please, Mr. Bojangles, I'm Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance. I'm Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance. Again, Bojangles.
Dans la réalité, si les cartésiens pensent, non, ils raisonnent, rien de plus. Comme une chrysalide, comme un papillon. Mais ils ne peuvent penser, car penser se fait avec la langue, la parole. La littérature ne peut se récupérer, elle vit de manière autonome. Comme les plantes, elle traverse le temps, contrairement à la science, qui est la science du moment, à chaque siècle, sa science. En revanche, les mots, eux, gardent la pensée. Voilà pourquoi Proust nous dit « Depuis Homère, on écrit toujours le même livre, et entre-temps, on perd les idées, pas moins que les choses, avant de les retrouver. » De ce fait, pour s'humaniser, patience. Si le cerveau avait été le fruit de la science, nous n'aurions ni le goût non compétitif pour la musique, encore moins celui pour les fraises, totalement inutile pour le travail à la chaîne. Et dire qu'il qualifie le reste de poète ou de saltimbanque, là aussi, quelle audace! Un remède à leurs âneries est simplement de ne pas les écouter, même quand ils viennent nous tirer les cheveux, comme un gamin mal élevé ferait à une petite fille. Faisons comme le papillon qui, même poursuivi, ne change jamais ni sa vitesse ni sa grâce. Ainsi, il n'y a pas de vie banale, il n'y a que des gens qui ne font pas attention. Implorons donc la grâce et le pardon pour tous les papillons.
I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Tennessee waltz, what an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee waltz.
Parachute du récit de Moïse à la veille de sa mort, il y a déjà toutes ces idées, de la perte. Car lui-même a égaré des lois, et les suivants en feront de même. Puis, perdus à leur tour, ils se tourneront vers le ciel, pour qu'on leur redonne ce qui a été perdu. Ils feront alors dire à un ange qu'il n'y a plus rien au ciel, que tout est là, sur terre, que tout nous a été donné, que l'on a tout éparpillé, et l'ange de conclure, cherchez et vous vivrez. Certes, on fabrique encore des boîtes à conserve avec des mots dedans. Mais là encore, la boîte à conserve résonne, mais ne pense pas. Des boîtes à conserve, on en faisait même des téléphones avec des fils. Ce qui n'a jamais marché. Pendant ce temps, sans jamais s'arrêter, souvent caché, la parole pense. Et avant que tout le monde la reprenne à son compte, le bruit fait fureur. Mais la pensée règne par son silence. Elle a le temps. Le temps est amoureux de la poésie, pas du béton armé. Le béton armé, le temps le recouvre. À l'évidence, qui, à partir de là, peut dire qu'il pense? Qui? Les cartésiens? On vient d'en faire le tour. La réponse est, surtout pas eux, les sans-cœur. Mais ça, n'importe quel ours blanc vous le dira. Le moindre papillon, s'il pouvait parler. Arrivée d'air chaud, chères auditrices, et à la vie.
Quand à la fin d'un très bon repas, les invités demandent à papa de chanter quelque chose. Sur la table s'appuyant d'une main, papa chante un air très ancien, Histoire de rose. C'est une chanson très compliquée, il y a quatre refrains et quatre couplets sans une seule pause. Comme papa s'en rappelle pas bien, maman lui souffle derrière la main, Timide et rose. C'est une chanson de 1900, il y a une fille qui meurt à 20 ans de tuberculose. Son père qui est au PTT, chaque jour sur sa tombe va porter des gerbes de roses. Le frère de papa, mon oncle Léon, dit qu'à cette époque-là, les chansons, c'était quelque chose. Comme papa s'en rappelle pas bien, maman lui sauve derrière la main. Timide et rose, je les revois tous deux dans le temps, papa tenant par le bras maman. Timide et rose, fredonnant déjà cette chanson dans la petite île de Robinson qui a vu tant de choses. Maman m'a dit ton père d'ailleurs n'a jamais pu l'apprendre par cœur et c'est la cause pour laquelle je l'ai épousé. Sans moi il pourrait pas chanter l'histoire des roses. Moi depuis le temps que je les connais mes parents, quand la dispute n'est pour pas grand chose, je prends mon air le plus innocent et je commence en me trompant l'histoire des roses. Papa me reprend et continue jusqu'à l'endroit qui se rappelle plus et porte close. La paix revient dans la maison quand maman finit la chanson Timide et rose. Maintenant je connais cette chanson-là, mais à l'endroit où se trompe papa, quelle drôle de chose. Moi non plus je me rappelle pas bien quelles sont les deux phrases de la fin et c'est la cause pour laquelle je me fais du souci et j'attends de trouver moi aussi timide et rose. Une fille qui voudra pour la vie m'aider à dire comment finit l'histoire des roses.